Bonjour, frères et sœurs, et bienvenue à la fête des tabernacles. J'espère que vous avez du bon temps jusqu'à maintenant, où que vous soyez. Peut-être vous êtes à un site de fête organisé, ou peut-être vous êtes à la maison, incapable de vous rendre au site de fête. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous passez déjà une très belle fête des tabernacles. Vous savez bien sûr que ce sermon a été enregistré d'avance, mais je me sens déjà à la fête des tabernacles à cause de la préparation de ce sermon-là, mais en plus, depuis les dernières semaines, j'ai travaillé sur le site de fête de Branson, où je vais coordonner la fête cette année. Alors, vous n'êtes pas seul à la fête des tabernacles, je suis avec vous en pensée, pour ainsi dire. Alors, j'espère que vous passez vraiment une fête fantastique. Allez, s'il vous plaît, à Hébreux, le chapitre 11. Hébreux, le chapitre 11, c'est bien sûr le chapitre de la foi. Et il nous est donné des exemples merveilleux des serviteurs de Dieu à travers l'histoire. Et nous pouvons tirer des grandes leçons et des grands encouragements à partir de là. Hébreux, chapitre 11, et nous allons aller au verset 13. Donc, Hébreux 11 et le verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, ces fameux héros de la foi, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. C'est important ce qui est écrit ici. Vous voyez, ils les ont vus et salués de loin, ces choses-là, les choses promises. Ils avaient une vision des choses qui allaient venir dans le futur. Ils voyaient d'avance ce qui allait venir. Et il y a plusieurs exemples de cela dans Hébreux 11. Allons au verset 15. Il est dit, « S'ils avaient eu en vue celle, la contrée d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. » Ces héros d'Hébreux 11 n'avaient pas à l'esprit constamment tout ce qui les environnait et le monde dans lequel ils vivaient. Ils avaient à l'esprit le royaume de Dieu qui allait venir plus tard. Ils méditaient là-dessus, ils priaient là-dessus. Ils pensaient au monde à venir. Et pour eux, c'était une priorité, c'était important. Ils l'attendaient de tout cœur. Et ça doit être la même chose en ce qui nous concerne. Allons au verset 24, où il est question de Moïse. Nous lisons ici, « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Car, regardez bien, il avait les yeux fixés sur la rémunération, sur la récompense. Le même principe, Moïse avait en tête la récompense qui l'attendait plus loin dans l'histoire, le prix qui allait lui être donné. Il voyait le monde à venir, pour ainsi dire. Verset 27, « C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. » Regardez comment c'est dit ici. Moïse envisageait ce qui venait, malgré le monde autour de lui, malgré ce grand royaume d'Égypte rempli de richesses, malgré Pharaon et son armée et toute son opulence. Moïse voyait ces choses-là autour, mais ce qui était plus réel pour lui encore et plus important, ce qu'il avait à l'esprit, c'était le royaume de Dieu, c'était la récompense qui allait venir, c'était la réalité de Dieu. Dieu était réel pour lui. Et c'est la sorte de vision que Dieu veut que nous ayons tous, ceux qui sont appelés maintenant. Et la fête des tabernacles nous fournit en ce sens une occasion unique pour développer cette sorte de vision, pour que nous centrions notre attention sur les choses qui viennent et pour que nous voyions les choses comme Abraham les voyait, comme Moïse les voyait. Les choses autour de nous ne sont pas les choses les plus importantes. C'est le monde à venir qui compte. Le reste autour de nous est temporaire. Regardons à ce qui est permanent plutôt que les problèmes et les épreuves autour dans cette vie éphémère actuelle. Et la fête, c'est une occasion merveilleuse et nous la donne chaque année. Et c'est important pour lui. Et il sait que c'est important pour nous que nous sortions du monde et que nous retrouvions cette vision et que nous l'approfondissions. Il y a plusieurs aspects de la fête et du monde à venir que on pourrait vous parler aujourd'hui, mais je vais m'arrêter sur simplement certains aspects importants et sur un aspect particulier de ce royaume à venir. Je vais vous parler de l'habileté à régner qui nous est développée maintenant en nous par le Saint-Esprit de Dieu. Allez à Philippiens. Chapitre 1, s'il vous plaît, Philippiens, chapitre 1, le titre du sermon, c'est « Habilité à régner ». Dieu développe ce talent en nous maintenant. Philippiens, chapitre 1, on va voir ici seulement un verset, mais un verset superbe. Moi, c'est un verset qui m'encourage beaucoup dans certaines circonstances, lorsque je passe certaines épreuves ou certaines difficultés. Ce verset-là ici, de Philippiens, chapitre 1, verset 6, m'encourage chaque fois. Paul dit ici, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ, c'est-à-dire le jour où Jésus-Christ reviendra sur la terre. Celui qui a commencé en vous, frères et sœurs, cette bonne œuvre va la rendre parfaite, va la compléter le jour où Jésus-Christ va revenir sur la terre. » Dieu travaille en nous, si nous avons l'Esprit de Dieu en nous, bien sûr. Alors, à ce moment-là, le Christ vit sa vie en nous et nous le savons. Et nous travaillons avec le Christ, nous nous soumettons à lui, à son règne, dans nos vies. Et nous lui demandons de développer en nous son caractère juste, sa mentalité, sa pensée, et que ça remplace les choses mauvaises qu'il y a en nous au point de départ. La fête des tabernacles. C'est un temps merveilleux où nous nous représentons ce qui va venir, mais c'est un temps où cette bonne œuvre dont il est question ici aura été complétée en vous et en moi si nous persévérons jusque-là. Ce sera devenu notre état permanent éternel, notre attitude et notre approche permanente éternelle. Dieu aura rendu cette œuvre parfaite en nous. Nous serons rendus parfaits et c'est tellement encourageant. Alors, les saints, comme on voit dans l'Apocalypse, vont régner sur la terre. Nous allons en parler un peu plus tard. Lorsque ce moment viendra, nous aurons été habilités à régner. Ce sera différent de ce que nous sommes maintenant. Nous serons totalement changés, totalement transformés. Notre corps ne sera plus le même et notre pensée ne sera plus la même. Elle aura été transformée complètement. Et chacun d'entre nous, que vous soyez où que vous voulez, que vous soyez à la maison pour la fête, que vous soyez dans un site de fête organisé, vous êtes en train d'être préparé, d'être habilité à régner. Est-ce que vous pouvez le voir? Est-ce que vous pouvez le représenter dans votre esprit, cette grande réalité? M. Armstrong a fait un travail extraordinaire de nous enseigner, de nous décrire le royaume de Dieu. Il a expliqué à plusieurs occasions que le royaume de Dieu, c'est bien sûr le fait que le royaume de Dieu régnera sur la terre, mais ce sera la famille de Dieu qui va régner sur la terre. Ce sera la famille royale divine qui vont administrer la terre et qui vont servir les êtres humains à ce moment-là. La fête des trompettes représente le retour de Christ et à ce moment-là, nous serons changés en un instant où nous serons ressuscités si nous sommes morts. Et lorsque la fête des tabernacles va commencer, nous aurons été transformés complètement. Nous serons au-delà de la résurrection et nous allons vivre dans un état de perfection, la perfection que Dieu nous aura donnée. Et quelle que soit la longueur qu'aura été notre vie, 20 ans, 30 ans, 60 ans, 90 ans, écoutez, ça c'est une goutte d'eau dans l'océan par rapport à ce qu'est l'éternité. Si vous regardez les choses avec les yeux de Dieu, l'éternité est beaucoup plus réel que la vie temporaire que nous avons maintenant. Il nous faut avoir cette vision-là et réaliser ce que Dieu fait en vous et en moi. Dieu va nous donner sa puissance, son pouvoir, son caractère, sa perfection pour que nous puissions régner sur ce monde-là. Et ce sera la première fois depuis 6000 ans que ce monde sera administré avec amour, selon les voies de Dieu, selon les lois de Dieu. Et nous aurons tout le caractère qu'il faut pour administrer, régner sur le monde et enseigner. J'espère que ce sermon va vous en donner un aperçu pour qu'on puisse en parler, pour qu'on puisse y réfléchir, qu'on devienne plus comme Abraham, comme Moïse et qu'on voit les choses qui s'en viennent plus clairement et que ça nous encourage, que ça nous enthousiasme. Alors, Dieu nous fait réaliser de grandes choses. Quand vous pensez aux gens décrits dans Hébreux 11, ces gens-là ont vécu dans un monde difficile. Ils ont vu les adorations païennes, l'idolâtrie qu'il y avait, toute la méchanceté qu'il y avait. Ça pouvait leur sembler très réel, mais on voit par les textes qu'ils attendaient un monde encore plus réel que ce monde qui a été passager. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Alors, réfléchissez à ce que Dieu fait en vous maintenant, à ce qu'il a en tête pour vous, à ce qu'il planifie pour vous et moi. Je vais faire certaines spéculations aujourd'hui, mais ce n'est pas mauvais d'en faire. Vous savez, c'est sûr, il ne faut pas aller trop loin dans les spéculations. Certaines personnes, parfois, arrivent avec une idée très personnelle et ils en font une montagne. Ce n'est pas ça. Non, il ne faut pas aller du côté de l'hérésie non plus. Mais parfois, on peut essayer de s'imaginer comment les choses peuvent être. Bien sûr, on verra la réalité lorsque ce sera ça. Mais ça fait du bien de voir comment ça peut se passer ou comment ça pourrait se passer. Ce n'est pas le repas principal, si vous voulez, mais c'est un peu comme des friandises à côté. Alors, c'est encourageant. Alors, ce que je vous donne aujourd'hui, dans cela, il y aura peut-être certains aspects de spéculation, mais ça nous aide à voir un peu ce qui s'en vient. Ça fait partie d'essayer de voir ce que nous serons de l'autre côté de la résurrection, de régner durant le millénaire, étant membre de la famille divine royale sous Jésus-Christ. Dieu fait de nous actuellement ses enfants. Et ces enfants vont devenir comment? Ils vont devenir comme leur père. Mes fils grandissent et me ressemblent de plus en plus. Ils m'imitent. Et je sais qu'ils essaient d'imaginer parfois qu'est-ce qu'ils seront lorsqu'ils seront grands, lorsque leur corps se sera développé, lorsqu'ils auront acquis différentes expériences. Mais ils regardent ce que je suis et ça les aide. Parce que dans un sens, ils deviendront ainsi, on devient comme nos parents dans un certain sens. Et concernant Dieu, ses enfants, ça le devient de façon parfaite, il va nous rendre parfaits. Et nous nous efforçons de devenir comme Dieu. Dieu nous travaille à travers les expériences de vie que nous vivons actuellement. Ça nous amène à avoir les yeux totalement sur lui pour avoir son aide. Et nous devenons de plus en plus comme notre Père, et nous voyons les choses de plus en plus comme lui les voit. Les expériences que nous vivons nous préparent, Dieu le permet. Alors, j'aimerais aujourd'hui voir plusieurs aspects de l'existence de Dieu, de son caractère, de voir comment il est. Et ça va nous rappeler que nous allons être habiletés dans le même sens à régner sous Jésus-Christ, que nous allons devenir comme notre Père et comme notre grand frère. Allons à Tite, le chapitre 1, s'il vous plaît. Tite, chapitre 1. Le premier point que je veux regarder avec vous, c'est le caractère parfait de Dieu. Dans la vie, nous luttons contre la tentation. Nous luttons contre des dépendances. Nous luttons contre le péché. Mais un jour vient où nous allons être transformés complètement. Et ces choses-là auront été conquises dans nos vies. Et notre caractère sera devenu parfait comme celui de notre Père. Vous savez, le monde souffre sous des tyrans actuellement et c'est tellement horrible. Ces leaders-là n'ont pas la sorte de caractère que Dieu veut que nous ayons. Mais dans le monde, les leaders ne seront pas des leaders au caractère douteux. Non, nous aurons un caractère juste et droit et parfait. Alors, Tite, s'il vous plaît, le chapitre 1. Nous allons voir comment Paul parle de cette grande réalité ici. Le livre de Tite, donc, est juste avant le livre de Hébreux. Tite, chapitre 1, et nous allons commencer à lire au verset 1. Paul dit quelque chose de remarquable ici. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu, et la connaissance de la vérité, qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise avant tous les siècles. Par qui? Par le Dieu qui ne ment point. Voici une des caractéristiques de Dieu. Dieu ne ment point. Dieu ne ment jamais. Voyez-vous, c'est une chose que Dieu ne peut pas faire. Si vos enfants vous demandent s'il y a des choses qu'il ne peut pas faire, vous pouvez leur dire, Dieu ne peut pas mentir. Vous savez pourquoi? Parce que ça irait à l'encontre de ce qu'il est, de sa nature. Il n'y a rien dans la nature de Dieu qui l'incline à la déception ou à mentir ou à des détours quelconques. Rien. Son caractère est parfait. Et c'est ce qu'il est en train de développer en nous. Parfois, nous avons des tentations de ne pas faire nos activités comme on devrait faire. Par exemple, au travail, on peut peut-être aller sur Internet un peu ou on peut allonger la pause au travail. Mais à ce moment-là, nous aurons éliminé toutes ces choses-là. Nous aurons vaincu. Dieu nous le montre actuellement. Allons à Jean, chapitre 17. Jean, chapitre 17. Un passage merveilleux. Le Christ ici enseigne à ses disciples avant sa mort. Verset 17 de Jean 17, dans sa prière à son Père, il dit ceci concernant ses disciples, « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Ta parole est la vérité. Frères et sœurs, je ne sais pas en ce qui vous concerne, ça doit être le cas pour vous aussi, j'imagine, mais moi, je veux vivre selon la vérité. J'ai hâte au jour où je serai capable de dire parfaitement les choses et que ma parole sera vraie. Ce sera merveilleux d'avoir un caractère tellement solide, tellement honnête, tellement sincère, tellement juste, qu'il n'y aura pas l'ombre d'une chose mauvaise. Et que ce sera vrai dans votre cas et dans mon cas aussi, que toute parole qui va sortir de notre bouche sera la vérité. J'ai hâte à ce moment-là d'être dans cet état de perfection pour toute l'éternité. Allons à Jacques, le chapitre 1, s'il vous plaît. Nous allons voir un autre aspect du caractère de Dieu. Jacques 1, Jacques chapitre 1, et nous allons lire le verset 13. Verset 13. « Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal » et il ne tente lui-même personne. C'est clair. Le mal, en aucune façon, n'attire Dieu. Absolument pas. Pour moi, comme ça peut être le cas pour vous aussi, le mal nous attire parfois, et la Bible le reconnaît. Nous sommes encore des êtres humains, nous ne sommes pas encore parfaits. On voit que Moïse a résisté au péché. C'est écrit qu'il a préféré obéir à Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Et le péché peut être plaisant. Nous avons à lutter contre ça. Parce qu'en tant qu'être humain, le péché nous attire. J'ai hâte d'avoir ce caractère parfait où je ne serai plus tenté par le mal. Lorsque j'aurai atteint le plein potentiel que Dieu veut que j'atteigne. Ça m'enthousiasme d'y penser. J'espère que ça vous enthousiasme aussi. Vous avez sûrement lutté contre le péché. Et c'est mon cas aussi. Les enfants de Dieu combattent le mal, comme Paul a fait, comme les disciples ont fait. Et les tentations sont là. Nous sommes engagés dans ce combat-là. Nous faisons notre part avec l'aide de Dieu. Nous supplions Dieu. Nous avons à lutter. C'est là que notre caractère se développe. Je sais qu'à ce moment-là, ça nous fait d'autant plus apprécier l'idée qu'un jour, nous allons être parfaitement solides. Nous allons avoir le caractère saint, juste et parfait de Dieu, de sorte que le péché à ce moment-là ne nous attirera absolument pas, comme c'est le cas pour Dieu. Comme Jacques dit ici, que Dieu n'est pas tenté par le mal. Il n'y a rien en Dieu qui l'incline à pécher, qui l'attire, et il n'y a rien en dehors de Dieu qui peut l'attirer à pécher. Ah, que j'ai hâte d'être comme ça! Nous célébrons cette époque maintenant. Nous célébrons la fête des tabernacles qui représente le moment où nous serons rendus parfaits, où nous aurons été rendus parfaits au retour de Christ. Un jour, ce passage va s'appliquer à moi et à vous, comme à Jésus-Christ. Allons à Jean, chapitre 14. Jean, chapitre 14, vers la fin du chapitre. Jean, chapitre 14, et nous allons lire à partir du verset 29. Ici, le Christ dit que Satan, dans Judas, vient s'en prendre à lui. C'est juste avant qu'il soit arrêté et mis à mort. Je vous donne le contexte, verset 29, Jean 14. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient. Il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. J'ai tellement hâte d'être capable de dire la même chose, d'être capable de dire que toute la saleté que Satan a incité sur la terre et qu'il a réussi dans le passé à mettre en moi, que ça aurait été éliminé et qu'il n'y aura plus rien de ça qui va m'attirer, que j'aurais vaincu tout ça. Vous avez lutté contre le péché comme on doit le faire. Alors, écoutez, lorsqu'on célèbre la fête des tabernacles, ça célèbre aussi le moment où nous serons totalement libérés, nous aurons vaincu totalement par la puissance de Dieu et nous aurons ce caractère parfait pour être capables de régner. Voyez-le, représentez-le dans votre esprit. Voyons une autre caractéristique de Dieu, reconnaissant encore là que c'est une caractéristique de Dieu et que ce faisant, ça deviendra une caractéristique de vous et de moi si nous persévérons jusqu'à la fin. Nous aurons des corps puissants. 1 Corinthiens 15 maintenant. 1 Corinthiens 15, qui est le chapitre de la résurrection. Notre corps deviendra comme celui du Christ et comme celui du Père. Nous serons transformés et nous naîtrons dans la famille divine en tant qu'être spirituel du même niveau d'existence que le Christ et que Dieu. Et Paul décrit ça ici. Paul décrit la résurrection. Il décrit comment nous serons. 1 Corinthiens 15 et le verset 35. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps viennent-ils ou reviennent-ils à la vie? C'est une question qu'on se pose tous un jour ou l'autre. On veut savoir comment ce sera. Comment nous serons au moment de la résurrection? Et il continue au verset 36 en disant, « Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. » Alors, Paul commence à indiquer ici qu'il doit y avoir une transformation complète à partir de ce que nous sommes à aller jusqu'à ce que nous serons. Il donne certains détails. Lisez tout le chapitre. Lisez tout le chapitre durant la fête et rappelez-vous que votre existence, à ce moment-ci, sera complètement transformé, comme il est dit ici. Allons au verset 42. Verset 42, 1 Corinthiens 15. « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. » Alors, Paul précise ici. « Le corps est semé corruptible et il ressuscite incorruptible. » Voyez-vous la transformation totale qui nous attend, qui attend les fidèles serviteurs de Dieu? Alors, toutes nos douleurs, toutes nos souffrances physiques, toutes ces choses-là qui ne vont pas bien avec notre corps ou avec notre santé vont être changées. Il y a une veuve dans mon église qui est une femme qui est malade beaucoup. Je la salue, je l'aime beaucoup. Ça ne durera pas toujours, les maladies physiques que nous avons. Notre corps n'est pas éternel et parfois la garantie vient à échéance. Il y a des choses qui ne fonctionnent plus. Nos bras, notre bouche ne parle pas comme on voudrait parler. Nos jambes souffrent. On a des maux de dos. Ce sera disparu. Nous deviendrons incorruptibles. Nous aurons des corps parfaits. Imaginez, le corps est semé corruptible et il ressuscite incorruptible. Verset 44, regardez ce qu'il est dit. Il est semé corps naturel, physique, et il ressuscite corps spirituel. Paul dit ici, vous avez un corps naturel physique, mais votre corps, lorsqu'il ressuscitera en tant que corps spirituel, si vous êtes fils et fille de Dieu. Regardez le verset 43, juste un peu auparavant. Il est semé méprisable, c'est ce que nous sommes maintenant. Nous sommes faibles. Il ressuscite glorieux. C'est quelque chose qui est parfois difficile à imaginer, bien sûr. Dans le passé, j'ai regardé des films mauvais et j'ai lu des choses mauvaises. Je dois éliminer ça de ma vie. Il faut que je mette mon attention sur les belles choses à venir et éliminer les choses passées de ma vie. Il y a des choses merveilleuses qui nous attendent. La Bible parle de notre apparence. Allons à Daniel, s'il vous plaît, chapitre 12. Daniel, le chapitre 12. Daniel, chapitre 12. Alors, Daniel, chapitre 12, et nous allons lire le verset 3. Au début de ce chapitre, on voit que ça décrit le temps de la fin qui est juste devant nous. Ça parle du temps de la résurrection aussi au verset 2, mais voici le verset 3 ce qui est écrit. « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. » Remarquez comment c'est important de faire l'œuvre au temps où nous sommes par rapport à la résurrection. Ça ne dit pas ceux qui sont négligents, ceux qui se tournent les pouces, ceux qui ne considèrent pas l'œuvre comme prioritaire vont régner et vont briller avec justice et vont briller comme les étoiles. Non! C'est ceux qui auront enseigné la justice, qui auront supporté cette œuvre-là, qui auront vécu selon les voies de Dieu et qui se seront préparés qui vont briller comme les étoiles du ciel. Il y a une œuvre que nous devons faire actuellement. Notre avenir est lié au fait d'avoir un zèle ardent pour soutenir l'œuvre d'enseigner l'Évangile au monde actuellement. C'est la mission de l'Église. Mais imaginez-vous la description qui est faite de vous ici. Vous allez briller comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Vous allez radier littéralement la lumière. Je me rappelle d'avoir lu des choses d'Isaac Newton. Il aimait à regarder le soleil. Et j'ai fait la même chose. Parfois, j'ai regardé le soleil pendant de longs moments. Et après ça, j'avais de la misère à voir. Et ce que je voyais, même quand je fermais les yeux, c'était le globe solaire. Vous savez ce que ça fait comme réaction lorsqu'on regarde le soleil de cette façon-là. Dans le monde à venir, nous pourrons, en tant qu'être transformé complètement, prendre cette forme spirituelle lorsque nous voudrons et briller de cette lumière. Allez à Apocalypse chapitre 1, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 1. Je pense que vous savez à quoi je vais en venir ici. Jésus-Christ vit déjà cette sorte d'existence. Il est à ce niveau d'existence. Il a cette gloire actuellement. Et il nous est dit à de nombreux endroits dans la Bible que la gloire que le Christ a, c'est la même gloire que le Père veut nous donner à chacun de nous. Son niveau d'existence, c'est ce que Dieu veut nous donner. L'héritage qu'il a reçu, c'est l'héritage que Dieu veut nous donner. Alors, lisons cette description admirable ici qui décrit comment le Christ est actuellement. Ça représente l'existence que nous aurons un jour. Apocalypse 1 et le verset 12. Apocalypse 1, verset 12. C'est Jean, dans sa vision, qui décrit ce qu'il a vu. « Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis sept chandeliers, et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, Jésus-Christ, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. » Quelle description! Et qu'est-ce que ça veut dire ici? Sa voix était comme de grandes eaux. J'ai déjà donné un sermon là-dessus, et j'avais emmené l'enregistrement du bruit de tonnerre que font les eaux des chutes Niagara. C'est intéressant de voir dans Ézéchiel 43, versets 1 et 2. Dieu est décrit comme ayant une voix qui est pareille au bruit des grandes eaux. Au bruit des grandes eaux. Alors, on peut voir ce que Jean disait. Il est question de Jésus-Christ ici. Un être divin, glorieux, majestueux, qui a toute la puissance de l'univers. C'est formidable. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Et la Bible dit à un moment donné que nous le verrons tel qu'il est, parce que nous serons transformés, nous serons nés dans la famille. Lisez ces choses-là. Lisez dans Ésaïe, dans Ézéchiel, ces descriptions-là aussi. Nous allons ressembler à notre Père et nous allons ressembler au Christ. Nous ne serons plus comme nous sommes maintenant. Nous allons ressembler à notre Père. J'aurais pu me préoccuper en disant, bon, j'ai trop bu de Dr Pepper, ou j'ai trop mangé, ou j'ai pris du poids. Non, ces choses-là seront changées. Je n'aurai plus mal au dos. Je n'aurai plus mal aux genoux. J'aurai un corps qui va vivre éternellement. Et plus que ça, le titre du sermon, je vous le rappelle, « Habileté à régner ». Et ça s'adresse à nous. Notre corps spirituel ne sera pas simplement une bénédiction pour nous, mais ce sera un outil pour enseigner aux autres. Allons à Jean, le chapitre 20, s'il vous plaît. Jean, chapitre 20. C'est intéressant parce que Dieu nous apprend à penser aux autres comme lui a pensé à nous. Nous devons mettre Dieu au centre de tout. Dieu doit être notre priorité et notre priorité doit être aussi à apprendre à aimer et à donner aux autres. Dieu veut que nous apprenions à devenir comme lui et nous aurons des corps superbes et puissants pour être capables de servir les autres à ce moment-là. Donc, Jean chapitre 20 et nous allons lire à partir du verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur! » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. » Je ne croirai point. Verset 6. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule. Mais crois. » Vous savez, le Christ aurait pu se présenter en reprochant l'incrédulité à Thomas de façon très forte, en le corrigeant durement. Dieu m'a aidé à comprendre ces choses-là. Je sympathise avec Thomas. Thomas était un ami du Christ qui a appris avec lui, qui l'a servi. Et tous les autres lui disaient, « Thomas, on a vu le Seigneur, il est ressuscité. » Thomas n'a pas dit, « Hey, c'est formidable. » Non, il continue à dire, « Non, ça n'a pas de sens. Il n'est pas vivant. Je le croirai lorsque je le verrai, je le toucherai, lorsque je mettrai mon doigt dans ses plaies et ma main dans son côté. » Jésus-Christ aurait pu simplement se présenter et dire, « Thomas, tu es insensé. Comment est-ce que tu peux dénier l'évidence? » Plutôt, qu'est-ce que le Christ a fait? Il a fait ce que Thomas avait besoin de voir et de vivre pour comprendre. Le Christ a enseigné à Thomas selon sa difficulté. Il avait de la difficulté à comprendre et le Christ a agi en conséquence de la bonne façon avec lui. Dans un sens, le Christ lui a dit, « Si tu as besoin de ça, Thomas, voici, mets tes doigts dans les trous de mes mains. Mets ta main dans mon côté. Crois. Ne sois pas incrédule. » C'est intéressant de réfléchir à ça. Je me rappelle un film que j'ai vu lorsque j'étais jeune, mais que je recommande à personne. Mais dans ce film-là, c'était insensé, il y avait des effets spéciaux. Et ça représentait ce que les gens pourraient ressembler après la mort. les gens étaient là comme ils étaient au moment de leur mort. Certains étaient démembrés, certains avaient été écrasés par des rouleaux compresseurs, étaient minces et aplatis. C'était complètement stupide. Vous savez, ça nous enseigne un peu une leçon d'une façon. Le Christ, durant toute l'éternité, ne sera pas avec un visage où le sang coule et avec des plaies ouvertes. Non. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de ça? Nous pouvons réaliser que dans l'épisode avec Thomas ici, le Christ a la possibilité de prendre la forme nécessaire pour enseigner. C'est une spéculation de ma part, bien sûr, mais j'imagine, par exemple, que dans le millénaire, si un petit enfant se perd en forêt, bien sûr, il n'y aura pas de danger avec les ours ou les serpents parce qu'ils seront devenus doux. Mais, vous savez, on ne se présentera pas au petit enfant pour le ramener à ses parents sous une forme pour lui faire peur. On ne lui fera pas peur de cette façon-là pour que l'enfant se sauve dans une autre direction. Non, nous aurons peut-être des options. Peut-être qu'on pourrait apparaître à cet enfant-là sous la forme d'un enfant aussi et dire, viens, viens mon ami, je vais te ramener à tes parents. Viens jouer avec moi un peu et on va s'en aller vers ta maison. Bien sûr, c'est encore des spéculations, mais je peux imaginer des scènes comme ça dans le royaume de Dieu. Et ça m'aide, moi, à réaliser de quelle façon nous allons être habilités à régner et à enseigner selon les besoins de chacun et à répondre aux besoins de chacun. Et notre corps sera un outil. Bien sûr, nous allons goûter à cet état de choses où notre corps ne sera plus jamais fatigué, où on n'aura pas besoin de dormir, on sera continuellement rempli d'énergie. Continuellement, ça va être formidable. J'aimerais avoir cette sorte d'énergie et j'aurai cette sorte d'énergie-là. Plus que ça, parce que la dimension de ça, c'est que nous aurons de tels corps pour servir les autres, pour accomplir la tâche. Voyons un troisième aspect de cette future existence. Nous n'avons pas tous les détails, mais la Bible nous donne certains éléments. Là, je vais vous parler de la relation de Dieu au temps et à l'espace, laquelle est totalement différente de la relation que nous avons actuellement au temps et à l'espace. Allez à Psaume 139, en ce qui a trait à l'espace. C'est un passage très encourageant, qui nous montre la majesté de Dieu aussi. Psaume 139, et nous allons commencer au verset 7. Dieu est conscient de ce qui se passe dans toute sa création, mais Dieu n'est pas limité au temps et à l'espace. Psaume 139, donc le verset 7. Par son Saint-Esprit, Dieu a accès à toutes choses. Il n'y a rien de caché devant lui. Verset 7, David dit ceci, « Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me cache au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. » Voyez-vous, c'est tellement beau comme passage. Verset 12, « Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour pour toi, et les ténèbres sont comme la lumière. » Rien n'est caché aux yeux de Dieu. Vous savez, dans le monde actuel, il y a beaucoup de conspirations. On ne peut pas voir à l'intérieur des murs où se concoctent les guerres et ainsi de suite. Non, ce sera différent dans le monde à venir. Le monde sera ouvert pour nous. Et nous allons nous appuyer sur des faits, nous allons savoir ce qui se passe et nous allons pouvoir intervenir. C'est fascinant de le savoir. Et nous aurons une relation différente avec le temps aussi, comme le Christ et comme Dieu. Dans 2 Pierre, chapitre 3 et verset 8, il est écrit que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans, mais l'inverse est aussi vrai pour Dieu. 1000 ans est aussi comme un jour pour Dieu, dans les deux sens, si vous voulez. Alors, un jour, pour lui, c'est comme 1000 ans, et il peut voir chaque détail, mais de l'autre côté, 1000 ans qui se passent pour lui, ça passe rapidement, comme une journée. C'est une image, bien sûr. Et je partage avec vous ici mes propres méditations. Je veux vous parler maintenant de ce qu'on pourrait appeler le problème de l'expertise. Certaines personnes dans l'Église ont de la difficulté à s'imaginer être des gens qui vont régner dans le monde à venir parce qu'ils n'ont pas eu cette sorte d'expertise ou cette sorte d'expérience. J'ai jamais administré une ville. J'ai jamais administré une entreprise. Je n'ai pas de connaissances ou d'expertise dans la planification des villes, dans l'urbanisme. Je ne connais pas ça du tout. Je suis un agriculteur. Je sais comment avoir soin des animaux, comment produire des récoltes. Ou je suis un comptable. Je sais comment administrer, comment faire des bilans. Mais s'il vous était donné une chose miraculeuse, par exemple, où vous pourriez utiliser chaque seconde de chaque heure, de chaque jour pour étudier quoi que ce soit, quelque chose à votre choix. Choisissez quelque chose qui vous plairait. La musique, par exemple. Apprendre à jouer du violon. Disons que vous n'avez pas besoin de dormir, vous n'avez pas besoin de manger, vous n'êtes jamais ennuyé, vous n'êtes jamais fatigué. Vous êtes continuellement rempli d'énergie, chaque seconde, chaque heure, chaque jour, et vous étudiez, vous apprenez le violon pendant tout ce temps-là, et vous pouvez avoir accès à tous les experts du monde sur le sujet. Vous pouvez avoir accès à tous les instructeurs, tous les professeurs voulus, et vous n'avez pas besoin de dormir, n'oubliez pas. Combien ça vous prendrait de temps pour apprendre à jouer le violon, par exemple? Peut-être une année, bien sûr, c'est une supposition. Mais pensez-y un peu. Écoutez, il y a des gens qui deviennent des médecins et au cours des années de leur apprentissage de la médecine, il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils dorment, il faut qu'ils se reposent de temps en temps. Et malgré tout ça, dans une période relativement courte, ils arrivent à maîtriser tous les aspects de leur science. C'est frappant. Combien de choses vous pourriez apprendre, pas seulement au cours d'une année, mais au cours de 5 ans, 10 ans, 50 ans, dans 100 ans ou dans 500 ans, combien de choses vous pourriez apprendre complètement, même à maîtriser? Imaginez-vous, parce que c'est les choses que vous allez pouvoir faire dans le monde à venir. Vous allez pouvoir développer différentes expertises et vous allez apprendre tout ce que vous voulez apprendre. Il n'y aura pas de limite de temps, il n'y aura pas de limite de ressources. Et vous allez pouvoir le faire pendant 1000 ans. Vous allez développer plein d'expertise. Écoutez, frères et sœurs, pour Dieu, 1000 ans, c'est comme un jour. Tous ces efforts-là pendant 1000 ans, c'est comme un jour pour Dieu. Et Dieu nous amène à cette sorte de vie, à cette sorte d'existence, où 1000 ans, ce sera comme un jour. Imaginez-vous. Formidable. Imaginez-vous le plaisir que vous allez avoir à apprendre et de vous servir de ces connaissances-là pour aider les autres. Et ça, c'est juste un aspect. Il y a quelque chose de plus important que ça. Vous allez pouvoir approfondir ces lois. Ce que les planificateurs des villes ou les administrateurs ou les comptables aujourd'hui ne savent pas, ce que nous apprenons maintenant, c'est la loi de Dieu. Nous nous concentrons sur le caractère de Dieu à développer et avec son aide, nous le faisons. Ça, c'est plus important que toutes les expertises qu'on peut avoir dans d'autres domaines. C'est ça qui est important. Écoutez, dans le monde à venir, il y aura des petites veuves qui vont administrer des villes. Ces personnes-là, actuellement, sont peut-être devenues veuves avec un certain nombre d'enfants à nourrir. Elles les ont élevés, elles ont fait des efforts incroyables, elles se sont appliquées, leur ont montré les voies de Dieu. Ça a été difficile et elles ont servi l'Église peut-être de différentes façons. Ces petites veuves-là vont régner sur des nations, sur des régions et vont développer l'expertise et les expertises que tous les experts du monde actuel ne peuvent pas connaître. Elles auront développé le vrai caractère de Dieu, et c'est ça qui compte. À ce moment-là, leur relation et notre relation au temps et à l'espace sera changée. Elle deviendra comme celle de Dieu. Lorsque nous régnerons, je vais vous parler de d'autres choses ici. J'ai déjà enseigné à des classes de 30 adolescents et personne ne voulait être là, ou à peu près personne ne voulait apprendre les mathématiques. J'enseignais les mathématiques, pourtant c'est un sujet intéressant, du moins pour moi. Je me rappelle un jour où c'était difficile et je priais « Dieu, aide-moi, garde ces adolescents-là paisibles pour que je puisse leur enseigner. » Mes frères et sœurs, dans le royaume, nous allons enseigner, nous allons servir, non pas en tant qu'être humain, mais nous allons avoir la possibilité de le faire en tant que fils et filles de Dieu. Allons à Deutéronome chapitre 32, s'il vous plaît. Deutéronome chapitre 32. Et nous allons lire le verset 29. Ça décrit Dieu, bien sûr, et ça indique ses capacités et les capacités qu'il va nous donner à ce moment-là lorsque nous serons transformés. Dieu dit, « Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu. » Il n'y a que Dieu seul. Bientôt, au retour de Christ, la famille de Dieu va s'agrandir. Il y a bien sûr le Christ qui est le premier-né actuellement, mais au retour de Christ, la famille de Dieu va s'agrandir. Dieu dit, « Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir, je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. Nous aurons le pouvoir de récompenser ou de punir ou de guérir. » Allons à Apocalypse chapitre 2, s'il vous plaît. C'est une promesse qui nous est adressée. Dieu va nous mettre en charge, mais va nous donner le pouvoir et la capacité d'administrer. Nous allons avoir la capacité de guérir les gens qui seront blessés. On regarde les nouvelles parfois. Et si vous êtes comme moi, parfois la colère monte en nous lorsqu'on voit des gens transgresser les lois de Dieu ou profiter des pauvres, dépouiller les pauvres, les rendre victimes une autre fois, les maltraiter. On voit toute la cruauté qu'il y a dans le monde. Et ça nous rend malheureux. On ne veut pas frapper ces gens-là, mais on veut changer la situation. Regardez le verset 26 d'Apocalypse 2. À celui qui vaincra, qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Frères et sœurs, il y aura certains moments donnés où nous aurons besoin de la verge de fer. M. Meredith en a parlé à quelques occasions parce qu'il y a certains individus dans le monde qui n'accepteront jamais aucune autorité, sinon le châtiment ou la verge de fer pour retrouver leur sens, et c'est pour leur bien et le bien des gens autour d'eux que ça devra être fait pour les amener à changer. Vous savez, il est marqué dans Zacharie que les gens vont monter à la fête pour observer la fête de Dieu à l'automne, mais c'est écrit que si les gens d'Égypte ne montent pas, ils vont être punis, il n'y aura pas de pluie. Ce n'est pas dit, si l'Égypte ne monte pas, il y aura une plainte décrite et ça sera envoyé à l'ONU et pendant 7 mois, ils vont en discuter et s'ils n'arrivent pas à une conclusion, ils décideront à quel moment ils vont se réunir quelques mois plus tard pour en discuter encore, blablabla. Non, c'est insensé. Ce n'est pas la façon de régner sur le monde et d'exercer une autorité. Non, les nations qui ne voudront pas observer la fête des tabernacles, il ne pleuvra pas sur eux. Et j'imagine un général d'une nation voisine de Jérusalem qui va dire « Je ne veux pas aller à ces fêtes juives » et il va vouloir rassembler ses chars d'assaut et son armée. Imaginez-le, il est dans la pluie avec son habit de général et il pense que ça va être son grand moment de gloire parce qu'il dit « Je vais résister à ce nouveau régime qui est à Jérusalem ». Mais ses armées ne se présentent pas, absolument pas, il n'y a pas de soldats qui viennent. Plutôt, tout à coup, la pluie cesse. Tout à coup, la chaleur s'intensifie et il voit au sol l'eau s'assécher. Et il va réaliser à ce moment-là qu'il n'a pas affaire à un être humain normal, mais qu'il a affaire à la famille divine qui aura des pouvoirs réels pour appliquer la justice et faire régner la justice. Nous aurons bien sûr le pouvoir d'utiliser les châtiments lorsqu'il faudra, mais nous aurons le pouvoir de guérir. Allons à Romains, le chapitre 8. Romains, chapitre 8. C'est un magnifique chapitre, tout le chapitre 8 du livre de Romains. Je vais vous montrer un passage particulier ici, Romains 8 et le verset 22. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Toute la création souffre. Elle est en train d'être détruite par la destruction de l'environnement, et ainsi de suite. Vous savez l'histoire dans Luc 19, lorsque le Christ est entré à Jérusalem et que les gens disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur » et les pharisiens ont dit « Arrête tes disciples de dire ces choses-là ». Mais qu'est-ce que le Christ a répondu? Le Christ a dit « S'ils se taisent, les pierres crieront. » S'ils se taisent, les pierres crieront. Voilà les paroles du Christ. Le règne de la famille de Dieu sera étendu au monde entier et le monde entier deviendra différent. Allons au verset 20 maintenant de Romains 8. « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi, la création, sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » Lorsque la famille de Dieu naîtra au jour de la résurrection, toute la création va en profiter et elle souffre actuellement. Elle attend, même si ce n'est pas conscient, elle attend ce moment-là pour être rétablie, pour qu'elle soit rétablie comme elle devait être originellement. J'ai une image qui me vient en tête. Il y a tellement de souffrance dans le monde et une des choses les plus horribles dans ce monde, ce sont les mines antipersonnelles dont on entend parler régulièrement. Il y a des armées qui ont installé des mines antipersonnelles un peu partout dans plusieurs pays et elles restent là pendant des années. Et souvent, vous entendez des histoires de petits-enfants qui vont jouer et qui sautent sur une mine antipersonnelle et qui sont estropiés pour le reste de leur vie. Et à ce sujet, je me fais une image dans ma tête. Je ne sais pas quel âge mes fils auront à ce moment-là, mais j'imagine un de mes fils, peut-être qu'ils seront à ce moment-là de la résurrection, ils seront dans la famille de Dieu. Et imaginez une pauvre petite fille arabe qui a vu tellement de violence et que cette pauvre petite fille saute sur une mine, sa jambe est en lambeaux, pour ainsi dire. Elle souffre beaucoup, elle a de la difficulté à marcher, elle est en douleur. Et j'imagine un de mes fils dans le royaume qui sera capable de servir, qui sera capable de guérir, qui va s'approcher de cette jeune fille et qui va lui imposer les mains au nom de Jésus-Christ, et tout à coup, elle est guérie. Sa jambe redevient normale. La douleur s'en va. Elle est capable de sauter. Elle est capable de courir. Et là, elle réalise que ce Dieu d'Israël qu'elle a haï pendant des années et qu'on lui a montré à haïr, l'a guéri. Qu'un membre de la famille de ce Dieu-là l'a guéri. Elle en sera heureuse et ça va changer sa vie. Est-ce qu'on peut être appelé à un rôle plus merveilleux que celui-là? C'est formidable. Ça fait rêver et c'est la réalité qui nous attend. Nous allons pouvoir guérir les nations. Écoutez, ce que je vous ai mentionné aujourd'hui, c'est simplement toucher la surface de ce sujet. C'est très peu, mais au moins ça nous donne à rêver. Je vais vous montrer un passage superbe dans Job. Job, le chapitre 26, Job, le chapitre 26, ce chapitre-là parle de la puissance du grand Dieu que nous servons. Job, chapitre 26, et nous allons lire le verset 14. Et vous allez voir cette déclaration merveilleuse. C'est tellement encourageant et enthousiasmant à lire. Le verset 14, après avoir décrit le Dieu de la création, plusieurs de ses caractéristiques merveilleuses, il dit ici, c'est Job qui écrit, « Ce sont là les bords de ses voies. » Donc, un tout petit aperçu, c'est le bruit léger qui nous en parvient. Mais qui entendra le tonnerre de sa puissance? Et dans certaines versions, c'est dit, « Qui peut comprendre sa puissance? » C'est merveilleux, on pourrait en parler durant toute la journée. Et même si on en parlait toute la journée, on aurait à peine effleuré le sujet. Nous sommes appelés à régner et à aimer comme le Christ règne et aime. Laissez-moi vous donner un dernier exemple qui me fait réaliser à quel point Dieu est puissant. Dieu veut nous donner ce dont je vous ai parlé aujourd'hui. Vous imaginez, par exemple, que une de nos émissions de télévision fonctionne formidable. Une émission de M. King, et M. King dit, on a besoin de faire telle chose, et que les 7 milliards de personnes sur la Terre veulent changer et veulent se repentir, et que le monde entier, 7 milliards de personnes, décident de se mettre à genoux et prier le Dieu des cieux. Est-ce que Dieu aurait un problème avec ça? Est-ce que Dieu dirait, ah, les lignes sont pleines? J'arrive pas à répondre ou à entendre tout le monde en même temps. Est-ce que vous vous êtes déjà arrêté à penser à ça? Non, Dieu n'aurait pas de difficulté à entendre 7 milliards de personnes priant ensemble. Pas du tout, pas du tout. C'est exactement comme c'est actuellement lorsque vous et moi prions en même temps. Parfois, on prie mon épouse et moi en même temps et je ne dois pas m'inquiéter. Étant donné que ma femme lui parle, que Dieu prête moins oreille à moi, non, pas du tout. Même si plusieurs personnes parlent à Dieu en même temps, c'est comme si chacun s'adressait à Dieu seulement, et Dieu entend la prière de chacun comme si c'était la seule prière qui lui était adressée à ce moment-là. Dieu est immensément puissant, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Est-ce que vous pouvez imaginer la sorte d'intelligence qu'il a? La sorte de puissance qu'il a. Pouvez-vous imaginer la sorte d'existence que Dieu a? Pouvez-vous imaginer qu'il veut partager cette sorte d'existence avec vous et avec moi? Frères et sœurs, il nous est promis par le Dieu Tout-Puissant que cet avenir nous attend, que la révélation des fils et des filles de Dieu va venir, que nous allons en faire partie si nous sommes persévérants. Comparé à cela, les souffrances actuelles ne sont rien. Frères et sœurs, nous serons habilités à servir. Croyez à cet avenir. Voyez-le dans votre esprit. Ça doit faire partie de nous. Nous ne devons pas en douter. Ça s'en vient. C'est tout proche. Ce règne-là approche. Et ça change tout. Ça change tout. Ça nous donne la vraie raison de vivre. Je vous encourage, où que vous soyez au cours de cette fête des tabernacles, profitez de ces jours pour parler de ces réalités merveilleuses. Passez du temps à genoux pour le remercier et pour lui demander de vous aider à voir plus clairement cette grande réalité et pour que cette grande réalité fasse partie de vous. Utilisez ce temps précieux pour approfondir la vision du royaume de Dieu. C'est ce que la fête représente. Passez une merveilleuse fête des tabernacles.